Merci, amis auditeurs, pour votre fidélité. Bien sûr, j'espère qu'on sera toujours à la hauteur de vos attentes. On parle aujourd'hui d'un sujet très, très sensible où vos réactions sont multiples et c'est compréhensible, évidemment. On essaie justement de parler ou d'évoquer ce sujet ou ce phénomène de bande de jeunes qui apparemment prennent de plus en plus leur place dans les rues et ça devient un phénomène très très dangereux. Nos enfants ont perdu la vie à travers ce problème de violence et on en parle aujourd'hui avec le professeur Marc Ferrero, psychologue clinicien et ancien enseignant en psychologie de l'enfant et de l'adolescent aux universités Lyon 1 et 2. Il a dirigé un établissement médico-social pendant 20 ans, il est formateur auprès des personnes dites aidantes. Bonjour Marc Ferro.
Bonjour, voici là.
Comment allez-vous?
Eh bien, écoutez, je vais bien et vous aussi, j'espère.
En tout cas, moi, je vais bien. Oui. Il y a juste ce sujet qui est vraiment apparemment qui passionne vraiment beaucoup de personnes. Malheureusement, c'est une passion un peu qui fait mal puisque notre lien à nos enfants qui nous passionne justement la rue le dépassionne à cause de la violence qui s'y trouve. Alors, ce phénomène de violence ou de bandes organisées, comment vous l'expliquez-vous?
Alors, je l'explique pour de multiples raisons, mais ce qu'on pourrait dire en introduction, c'est que les bandes dont on parle aujourd'hui ont toujours existé, même si elles avaient à la fois des points de similitude et puis des points de différence. Mais de tout temps, on a eu affaire à des bandes. Alors, il se trouve qu'auparavant, elles étaient peut-être à la fois plus âgées, hein, si on fait référence à notre histoire. Je sais pas, tout le monde se souvient des bandes de voleurs mandrins et puis bien d'autres, dont je disais qu'ils étaient plus âgés. Et puis, les bandes qu'on connaît aujourd'hui, elles sont apparues avec la société industrielle, le 19e siècle, puisque ce sont essentiellement des adolescents qui en font partie, ou des grands adolescents, entre 13, 14 ans jusqu'à 23, 24 ans. On voit rarement des personnes plus âgées participer aux bandes dont on parle aujourd'hui. Hein. C'est plutôt donc réservé à une jeunesse. Mais vous savez, elles ont de tout temps existé, disais-je, parce que elles s'appelaient au 19e siècle les Apaches.
Les Apaches, oui.
Voilà. Hein, on les appelait les Apaches parce qu'ils portaient des pantalons un peu larges. Et puis parce que surtout, il y avait une culture à l'époque américaine qui faisait que les Indiens étaient vécus comme sanguinaires, violents, dangereux, etc. Donc, Apache, c'est le nom d'une tribu d'Indiens.
Indienne redoutée.
Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a eu les Loubards. Et puis les blousons noirs, voilà. Et donc c'était des bandes qui elles avaient des particularités avaient une particularité qui était que c'était un univers d'apprentissage collectif de virilité. C'est-à-dire que c'est dans ces bandes-là, il n'y avait pas de filles, par exemple. Et elles s'exerçaient surtout, d'ailleurs, ces bandes en soirée et le week-end et le samedi soir et le dimanche matin, comme on disait. À l'époque. Puis après, ils allaient travailler une fois qu'ils avaient terminé en quelque sorte ce rite hein, d'apprentissage. Et en général, ils trouvaient du travail, même s'il y avait un petit turnover, même s'il y avait du changement quelquefois dans un cas dans l'autre. Et aujourd'hui, ce que j'aurais aimé dire aussi peut-être, c'est qu'il y avait une rivalité entre bandes, hein, si tout le monde se souvient peut-être, enfin je le souhaite, du film West Side Story, hein, qui date, je ne sais pas si vous voyez, voici là ce film-là, il date de 1962, et là c'était un combat ethnique entre des blancs américains et puis des portoricains de l'autre, tout ça pour les yeux de belles jeunes filles étaient que tout le monde voulait, enfin que les leaders plutôt des deux groupes voulaient s'approprier.
En tout cas, il y a toujours un objectif au bout du compte.
Voilà. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, les objectifs ont bien changé. Hein.
Absolument.
À cette époque-là, c'était conquérir le cœur de la belle. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ça, bien sûr. C'est ce en quoi, d'ailleurs, les bandes sont aujourd'hui, de mon point de vue, très différentes, avec raison, le traitement médiatique, enfin, dit que les auteurs d'agressions, par exemple, sont de plus en plus jeunes, que l'action sociale qui avait auparavant se décompose hein, dans notre société, qu'il y a une ghettoisation des quartiers, tout ça, associé aussi au fait qu'il y a un encadrement qui a disparu. Avant, il y avait des syndicats, la paroisse, d'autres religions, le parti communiste. Tous ces éléments-là faisaient qu'il y avait des formes d'encadrement des jeunes de l'époque. Après, on est passé par les grands frères, par exemple. Et puis aujourd'hui, ben, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Donc les jeunes qui avaient des points des critères d'appartenance à un groupe ne les ont plus. On parlait des blousons noirs tout à l'heure, c'est parce qu'ils étaient habillés avec un blouson noir.
Vous pensez qu'il y avait une idéologie derrière ces formes de banditisme?
Alors, c'était... Je vais reprendre ces deux mots. Je pense pas qu'il y ait à l'époque d'idéologie. Hein. Je pense simplement qu'il y avait un encadrement. Moi, je suis persuadé qu'il y avait des jeunes qui appartenaient, par exemple, qui adhéraient à un syndicat ou à un parti ou à une paroisse, une religion. Mais je suis pas sûr qu'ils aient conscience toujours, à 15 ans, 16 ans, de l'idéologie à laquelle ils pouvaient appartenir, par exemple. Hein. Donc, l'idéologie, elle me paraît pas forcément très forte. Chez les adultes, peut-être qu'il y avait vraiment la volonté de vouloir encadrer ces jeunes et de les socialiser, ça c'est sûr. Et la deuxième question, c'était...
C'était le début de ce phénomène Marc Ferrero. Et comme vous le savez si bien, il est normal de se regrouper quand on est adolescent. C'est comme ça qu'on grandit, on trouve une seconde famille dans sa bande de copains. On constate aussi qu'à toutes les époques, cela donne parfois lieu à de la violence. Mais le plus souvent, ce sont des actes isolés. Parlons maintenant des causes. Je ne vous cache pas, depuis qu'on a commencé l'émission depuis 14 heures, eh bien, nos auditeurs ils sont en colère par rapport au laisser-aller. Et on parle du manque d'autorité parentale, puisque les parents maintenant n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. D'autres qui pensent que l'appartenance à une communauté fait que, voilà, il y a des manquements où l'école ou le droit de nos jours ne les aide pas trop à garder cette mainmise sur l'enfant. Comment on s'en sort?
Tout ça est un peu vrai, hein, mais il faudrait cumuler tous ces critères. Je crois que je vais les reprendre si vous voulez un à un, peut-être ce
Allez-y.
Que vous disiez. Alors, je crois d'abord que une des premières causes de violence, c'est la violence qu'on trouve dans les jeux vidéo, par exemple. C'est-à-dire que moi, je suis frappé quand je discute avec des adolescents, c'est qu'ils ne connaissent plus l'impact des coups. Ils sont étonnés quand ils se battent de voir qu'une personne, par exemple, ne se relève pas ou qu'elle saigne. Parce que dans les jeux vidéo, vous mourrez, vous ressuscitez. Enfin, vous revenez dans la minute d'après, vous vous redressez. C'est assez fascinant. Donc, il y a la violence du jeu vidéo qui les éloigne de la réalité. Il y a aussi la consommation. Alors, personne n'en parle, ça m'ennuie un peu. Il y a la consommation d'alcool et de drogue, et de cannabis ou d'autres drogues plus dures, qui joue un rôle important. Vous savez, on parlait beaucoup, on en parle moins, du binge drinking, l'hyperalcoolisation rapide des jeunes. Hein, c'est à celui qui boira le plus et le plus vite, dans une bande. Alors évidemment, une fois que vous avez bu, eh bien le danger approche parce que vous êtes plus violent, les pulsions se laissent aller, etc. Mm-hmm. Et il y a une vidéo qui a fait beaucoup de mal, enfin qui a fait beaucoup parler aussi, parce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis. Je suis désolé des mots anglais, mais je les traduis à chaque fois. Le happy slapping, c'est-à-dire les vidéos lynchage, comme ce jeune-là qui a été tabassé avec des battes de baseball, mais parce qu'il appartenait à une bande différente et qui s'est retrouvé isolé. Et ces vidéos, après, elles tournent sur les réseaux sociaux et elles concourent à augmenter encore plus la violence. Elles ont un côté spectaculaire d'une part, et d'autre part, elles vont entraîner, bien sûr, le jeune à les autres jeunes du groupe de celui qui a été tabassé à se défendre et à se venger. Il y a aussi les violences familiales, hein, parce que vos auditeurs se plaignent de cette violence à juste titre, mais il est rare de voir un adolescent qui vit dans un milieu familial harmonieux participer à des actions violentes, par exemple. Donc les conflits se gèrent dans ces familles-là plutôt par la parole. Alors, ce qui est impressionnant, c'est souvent aussi que ces violences, elles arrivent dans un climat familial, une ambiance familiale qui est lourde, voire quelquefois insupportable. Et c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est qu'un certain nombre de parents ne surveillent pas leurs enfants. On est bien d'accord, dans des logements trop petits, dans des habitats sociaux qui sont devenus de véritables ghettos. Oui, ça,
aussi, nos auditeurs parlaient de décrochage scolaire amplifié par les réseaux sociaux, la crise sanitaire qui a amplifié aussi le problème, le devoir de l'État de protéger sa jeunesse, en particulier celle qui vit dans les quartiers défavorisés.
Bien sûr, vous insistez à juste titre là, sur la crise sanitaire. Alors là, c'est assez fascinant. Oui, mais tous ces jeunes qui souffrent de la crise sanitaire, ils sont pas forcément, ils vont sortir à un moment, mais ce sont ceux qui sont tous devant leur tablette, leurs ordinateurs, leurs téléphones à jouer. Hein. On peut assister à le pouce et les doigts se musclent, mais pas le corps humain. Hein. Vous avez vu, on a constaté que depuis les années 50, il y a au moins 40% de la, comment on dit, du volume pulmonaire qui a diminué. C'est extrêmement important. Et la masse musculaire aussi des adolescents a fondu. Donc c'est vrai qu'il faudrait pouvoir aujourd'hui, mais alors la crise sanitaire, c'est vrai, s'y prête mal, promouvoir partout où les jeunes vivent, non pas des systèmes de contrôle de plus en plus sophistiqués, hein, la vidéosurveillance, les cellules de veille, mais des activités organisées dans les espaces institutionnels qui permettraient à ces jeunes de pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'on voit bien, on a supprimé tous les lieux de loisirs, les terrains, il n'y a plus personne sur les terrains de foot, hein, les responsables d'associations, ils sont catastrophés par cela, parce que les espaces d'animation, les espaces de culture, les espaces de vie sociale, tout
sont
ça...
Sont désertés, oui.
Voilà, ont été désertés, ont disparu.
Donc, quand on fait un constat...
Ça, c'est un élément, pardon, c'est juste un élément ponctuel, ça. On peut penser que ce n'est pas la cause fondamentale des bandes et de la violence de ces bandes. Hein. Elles ont, comme on disait tout à l'heure, elles ont amplifié le phénomène, mais elles ne l'ont pas créé. Mmh. C'est important de se le rappeler, parce que ce qu'on voit surtout aussi, c'est le fait d'appartenir à une bande permet à des jeunes de venir combattre le sentiment d'infériorité qu'ils peuvent avoir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant l'école. C'est vrai que beaucoup d'enfants, appartenant à ces bandes d'adolescents sont en échec scolaire et pour certains décrochent du système scolaire. C'est vrai qu'un des
alors,
éléments...
alors là, comme hélas le temps nous presse, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais le constat, il est fait. Donc il y a plusieurs causes qui font que les enfants deviennent ce qu'ils deviennent dans la rue. Maintenant, comment prévenir tout cela et quels sont les moyens?
Alors c'est ce que je vous disais, je crois que ça, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est pas en multipliant la vidéosurveillance par exemple, hein, vous savez, quelle commune n'a pas ses caméras de vidéosurveillance. Je dis pas qu'il n'en faut pas, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi autoriser un encadrement qui soit de nature sociale et qui soit de nature animation, culture, loisirs, sport, qui permettent à ces jeunes de vivre autre chose que la bande qui les fait, qui leur permet de se constituer. On a quand même oublié quelque chose, hein, c'est que il y a aussi le fait que la drogue joue un rôle important dans la constitution de ces bandes. Et que même si on essaye de faire la différence entre la bande, la délinquance et le grand banditisme, un certain nombre de ces jeunes sont des dealers et vont se servir auprès de gros caïds qui distribuent la drogue. Donc on a une porosité, enfin une frontière de plus en plus mince entre ces groupes de jeunes dont on parle, et puis la délinquance de grand banditisme que vous évoquiez tout à l'heure. Si on veut quitter ce phénomène-là, la parole doit être aux enseignants, aux élus locaux, au gouvernement, mais même aux gens de l'opposition, d'ailleurs à tout le monde, c'est de réaliser que ces jeunes-là, aujourd'hui, ne pourront évoluer positivement que si on leur donne les moyens de se constituer dans des groupes qui soient des équipes et non pas des bandes ou des gangs.
Le président Emmanuel Macron a annoncé dernièrement que le développement du mentorat, 200 000 jeunes se verront chacun accompagnés d'un adulte, un mentor, afin de les guider dans leur formation et leur recherche de travail. Et le travail, la crise économique aussi, le travail, le chômage, tout ça sont des causes qui amplifient le phénomène. En tout cas, un petit mot avant la fin, parce que le temps, hélas, nous presse. On est piégé aussi par ce temps-là, mais on y reviendra, promis, puisque vous êtes spécialisé pendant longtemps dans ce sujet.
Tout à fait, et en particulier sur les adolescents.
Mm-hmm. Vous voulez ajouter un dernier mot, Marc Ferriero?
Alors, on parlait de, si vous me laissez la parole quelques secondes, simplement pour dire qu'on parlait des équipes tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important que les jeunes puissent connaître, au lieu de vouloir se mesurer et de démontrer qu'ils sont les plus forts en tabassant sur la bande d'à côté, du quartier d'à côté, ou de faire du scooter sans casque. Parce que tous les jeunes, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils cherchent leurs limites, quoi, aussi, dans ces bagarres, dans cette violence. Et si on propose d'autres substituts à cette violence-là, qui puissent les canaliser, que ce soit le chant, le sport, l'islam, vous voyez,
l'islam, oui.
Tout cela va permettre aussi de modifier,
d'extérioriser leur force, leur mauvaise force,
leur pulsion,
absolument, oui.
Qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qu'il faudrait canaliser. Ça pourrait être le mot de ma fin.
Merci infiniment, Marc Ferriero. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et ancien enseignant en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et formateur auprès des personnes dites aidantes, co-auteur du livre magnifique « L'enfant et ses complexes, le développement, le langage, l'école, les écrans et les parents ». Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Voici là.
Au revoir.